Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui on parle d'un sujet qui concerne, on le sait de plus en plus, d'adolescents, et en particulier d'adolescentes, l'anorexie, comment en sortir, comment en guérir, comment on tombe dedans aussi, c'est parti.
Bonjour.
Bon Léa, merci beaucoup d'être sur le plateau de la maison des maternelles parce que c'est drôlement courageux d'avoir la force de venir sur ce canapé pour raconter votre histoire. Donc je pense que vous allez non seulement aider beaucoup de jeunes filles qui nous regardent,
j'espère,
mais aussi leurs parents. Et ça, c'est vraiment bien. Alors vous avez 22 ans, vous avez vécu une enfance, je dirais, plutôt heureuse, choyée et tout. Et au sortir de l'adolescence, vous avez totalement arrêté de manger jusqu'à vous mettre... en danger, puisque vous avez été hospitalisée. Quel genre de petite fille est-ce que vous étiez, justement? Je disais que vous étiez une petite fille choyée. Du coup, est-ce que vous étiez gaie, heureuse et tout?
J'étais une petite fille très souriante, très joyeuse. J'étais sage, j'étais assez facile à vivre d'après mes parents. J'étais une bonne élève. Moi, j'ai eu une enfance très heureuse.
Mmh. Vous aviez confiance en vous?
Malgré tout ça, c'est vrai que je n'avais pas du tout confiance en moi. Je me comparais énormément aux autres. Et surtout, les maîtresses disaient beaucoup que je manquais de confiance en moi. Donc, c'est quelque chose qui... J'ai beaucoup manqué de confiance en moi quand j'étais petite.
Voilà, donc ça, c'était quand même un trait de votre personnalité. Une petite fille gaie, heureuse, choyée.
J'ai eu mes règles. J'ai été réglée très tôt, très jeune, la plus jeune de mes copines. Donc ça a été très dur parce que j'ai eu mes formes assez tôt. Et je pense que ça a peut-être un peu joué...
Oui, le changement auquel on ne s'attend pas,
c'est ça,
forcément, ça a dû jouer. Et puis, à 19 ans, vous avez eu une rupture amoureuse. Et c'est une rupture aussi dans votre vie, finalement, dans votre quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ça faisait 3 ans que j'étais avec mon copain à cette époque-là. Et puis, on s'est séparés. Et c'est un moment qui a été très, très douloureux dans ma vie. De là, j'ai fait une grosse dépression. Et j'ai perdu l'appétit totalement... du jour au lendemain, vraiment, ça a été très brutal. Et puis, tout le monde pensait que c'était la dépression, la perte d'appétit. En fait, c'était beaucoup plus profond que ça. J'avais vraiment un contrôle permanent sur moi-même, sur mon alimentation. Par rapport à ça, et très vite, en fait, la dépression a engendré l'anorexie et ainsi de suite.
Vous êtes rendu compte que vous aviez un trouble alimentaire rapidement ou pas?
Vu que ça a été assez brutal, mes proches ont vu, notamment ma maman. C'était assez voyant, j'ai perdu du poids très vite. Donc, elle a pris les choses en main très, très vite. On est allé voir le médecin qui ne s'inquiétait pas forcément parce que c'était une période de ma vie compliquée au niveau sentimentalement parlant, etc. Et puis, finalement, elle s'est vite rendue compte que elle savait au fond d'elle que c'était plus profond que ça. Et du coup, ça a été assez rapide finalement.
Assez rapide, vous diriez combien de temps?
Ça a commencé en mai 2019 et puis en août.
Ah oui.
En fin août, début septembre, on a commencé à mettre le mot anorexie.
Ah oui, d'accord.
Ça a été très très rapide.
C'est vrai qu'après, en fait, votre poids c'est devenu une véritable obsession. Mmh. Comment ça se traduisait au quotidien?
Alors déjà, je mangeais pas. Pas du tout, ou alors des petites bouchées, mais rien que ça, c'était, j'avais l'impression de gravir l'Everest. Donc je buvais beaucoup, de l'ice tea notamment, des litres et des litres.
Pourquoi vous aviez choisi ça, vous savez ou pas?
C'était écrit sur l'étiquette, faible en calories, et du coup, j'étais très influencée par ça. Puis après, on m'a prescrit une poudre de protéines pour les smoothies, pour que je puisse avoir un peu de protéines et pouvoir tenir debout, en fait, tout simplement. Et puis, je n'avais plus trop envie de faire ça. Donc, j'essayais de jeter la poudre dans la poubelle pour que le pot descende quand même et que ma maman voit que j'essaye de faire un peu des efforts, etc. Et puis, au fur et à mesure, plus du tout. Et puis, jusqu'à à la fin, c'était que du Coca Zéro parce que c'était pour moi zéro calorie et tout ça.
Vous vous sentiez pas faible? C'était pas difficile, justement, de tenir
debout?
Au
début, j'avais l'impression que j'étais super forte et que j'étais super puissante par rapport aux autres et que je pouvais réussir à tenir sans manger. Et c'est ce qui a été le cas pendant des mois et des mois. J'ai tenu sans manger ou des mini-bouts. Et puis, en fait, à la fin, je voyais que mon corps, il faiblissait. Tout me demandait un effort extrême. Et puis, je suis arrivée à un poids très, très faible. Donc...
Comment vous arriviez à gérer les repas en famille? Parce que vous disiez, je jetais un peu la poudre. Comme ça, ma mère voyait descendre le niveau. Et puis, moi, voilà...
Les repas, c'était vraiment c'était très, très dur. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte quand on ne vit pas au quotidien, mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile pour la famille parce qu'ils me voyaient ne pas manger. Donc, tout le monde finissait en pleurs. Enfin, c'était vraiment, vraiment très compliqué. Moi, j'avais souvent de la soupe ou voilà, un smoothie, etc. De temps en temps, il y a un seul truc que j'arrivais à manger, mais vraiment, c'était assez rare, c'était un sushi. C'était le seul truc que j'arrivais et c'était vraiment... quelque chose d'assez incroyable. Et puis, c'était dur.
Vous avez, comment vous gériez aussi la sensation de faim? Au bout d'un moment, on l'oublie ou pas?
Alors, c'était vraiment des périodes. Il y avait des périodes où j'avais extrêmement faim, mais la petite voix dans la tête prenait vraiment le contrôle et prenait le dessus, en fait. Donc, j'arrivais à étouffer un peu tout ça. Et puis, des fois, pas du tout. Tout me dégoûtait. Dès qu'il y avait de la nourriture trop proche de moi, j'avais l'impression qu'elle allait s'imprégner dans mon corps et que, du coup, je ne pouvais pas contrôler, même si je ne la touchais pas. J'avais l'impression que ça allait rentrer en moi. Et, c'était vraiment
un rejet, quoi.
Ouais, c'était super dur.
Donc, vous avez perdu beaucoup, beaucoup de poids.
Ouais.
On a vu quelques photos, d'ailleurs. Quel regard vous portiez sur votre corps quand vous vous regardiez dans la glace?
Alors ça, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, je me sentais vraiment énorme. J'avais l'impression d'avoir pris, de faire 150 kilos, voire plus. Enfin, vraiment, je me sentais très, très grosse. Mais d'un autre côté, j'étais assez fière de ça, du fait que je puisse être plus puissante que les autres, etc. Donc je mettais des pantalons qui étaient quand même assez serrés pour qu'on puisse voir que je perdais du poids. Mais d'un autre côté, vu que j'avais froid en permanence, je mettais énormément de couches de vêtements, des fois 10.
Ça se voyait pas, quoi.
Donc en fait, on voyait pas. Par contre, j'avais vraiment le visage très creusé, donc ça se voyait quand même un peu, en fait.
Tout à l'heure, vous avez dit que c'était à peu près à la fin de l'été, hein, que, que ça allait très vite de mai à fin août. Du coup, votre maman vous a emmené aux urgences?
Alors oui, en fait, je devais commencer le travail en septembre 2019 et puis elle voyait que vraiment j'étais trop faible et que c'était juste pas possible. Donc du coup, on est allé aux urgences et à partir de ce moment-là, on a vraiment posé la première fois que le médecin a posé le mot anorexie. Parce qu'avant, en fait, j'avais vu une psychiatre courant de l'été qui n'avait pas du tout posé ce diagnostic-là. Elle avait posé le diagnostic de la dépression, mais pas du tout des troubles du comportement alimentaire, donc des TCA, alors que je faisais déjà 37 kilos à l'époque, donc ça se voyait un peu quand même. Et puis là, vraiment, on a mis le mot anorexie. Et puis, du coup, les médecins ont décidé de m'hospitaliser 2 jours. Donc, j'ai été hospitalisée 2 jours pendant 3 semaines. Et puis après, ça allait mieux selon eux. Donc, j'ai repris le travail, j'ai repris l'école parce que j'étais en alternance. Et puis, en fait, ça a empiré de plus en plus. Je continuais à y aller quand même toujours le mardi parce que c'était le jour où j'avais le groupe de parole pour l'alimentation. Mais en fait, ça a empiré... De plus en plus, j'ai eu un accident de voiture parce que j'ai fait un malaise au volant. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de tout arrêter, l'école, le travail. Et puis j'ai attendu d'avoir une place en hôpital à temps plein, ce que je ne voulais pas du tout. Mais au bout d'un moment, quand on n'a pas le choix...
Vous n'aviez plus le choix, quoi. Vous étiez tombée vraiment trop bas.
Ouais.
C'est ça qui a permis...
33 kilos à l'époque. Ouais. Donc,
33 kilos.
33 kilos, ouais.
C'est ça qui vous a permis de vous en sortir? Vous pensez d'être hospitalisée?
Ah oui, c'est vraiment la seule chose que je ne voulais pas du tout. Et puis finalement, je le regrette pas parce que c'est vraiment ce qui m'a sauvée. C'est très dur l'hospitalisation à temps plein parce qu'on est très isolé, on n'a pas le droit à nos téléphones, on a très peu de visites. C'est vraiment très compliqué, on est vraiment focalisé sur soi-même, sur la maladie. Mais bon, les soignants étaient vraiment géniaux et vraiment, je ne les remercierai jamais assez parce qu'ils m'ont sauvé la vie, clairement. Donc,
Alors c'est frais quand même, hein, parce que c'était en 2019, tout ça, c'est ça plus
ou moins. J'ai été aussi hospitalisée en 2020.
Oui, donc c'est vraiment frais.
C'est
donc aujourd'hui, est-ce que vous avez peur de rechuter? Quel regard vous portez
Alors, il y a eu des périodes où c'est vrai que ça revenait un peu dans ma tête, etc. Pendant deux, trois fois, il y a eu une semaine où la nourriture, ça a redevenu un peu un combat. Mais je suis encore suivie, je suis encore sous traitement. Et maintenant, j'arrive à le gérer. Et je sais que je ne vais plus jamais retomber là-dedans et que je vais tout faire pour que ça n'arrive pas.
Alors, il y a quelque chose qui doit vous aider, c'est votre chaîne YouTube, justement, parce que vous, comme vous le faites aujourd'hui sur ce plateau, vous transmettez à des jeunes filles qui pourraient avoir des propensions à l'anorexie. Vous pouvez nous la décrire, cette chaîne?
Alors, j'ai ouvert ma chaîne quand je suis sortie de l'hôpital. Mmh. Donc, je suis sortie précipitamment par rapport au coronavirus. Et du coup, je me suis toujours dit, quand je sortirai de cette maladie, je ferai une grosse vidéo pour en parler, parce que je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Et du coup, voilà, ça a pris de l'ampleur. J'ai beaucoup de jeunes filles qui m'ont écrit. Je l'ai beaucoup répondu. Il y a des fois où ce n'est pas toujours facile, parce que vu que c'est son histoire et parler à des filles qui sont là-dedans, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée aussi à voilà, relativiser, à me dire que...
Prendre de la hauteur.
Voilà, c'est ça. Mmh. Mmh.
Docteur Vincent Trébossène, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup, beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes psychiatre d'enfants et d'adolescents à l'hôpital Robert Debré à Paris, spécialiste des troubles du comportement alimentaire. On a vraiment besoin que vous nous éclairiez ce matin. Déjà, éclairez-nous en nous donnant une définition de ce qu'est l'anorexie, qu'on sache bien de quoi on parle. Ouais.
Alors, bon, l'anorexie est un trouble des conduites alimentaires, là, je ne vous apprends pas grand-chose, et qui se caractérise par trois grands groupes de symptômes. Le premier, c'est qu'on retrouve d'abord une restriction alimentaire, qu'elle soit quantitative ou qualitative, hein, c'est-à-dire des choix restreints sur le plan alimentaire. Et il faut que cette restriction alimentaire, elle empêche d'avoir un poids suffisant par rapport à ce qui est attendu en fonction de l'âge, du sexe, de la trajectoire de développement. Ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième symptôme, c'est la présence d'une peur intense d'être en surpoids ou de prendre du poids. Et ou la présence de comportements qui vont à l'encontre de la prise de poids alors que celui-ci est bas. Et la dernière, le dernier symptôme, c'est l'altération de la perception de son propre poids et sa propre silhouette, ce qu'on appelle la dysmorphophobie dans le jargon.
C'est ça. Alors Léa, elle est tombée dedans, entre guillemets, à l'âge de 19 ans. Il y a un âge critique, il y a un âge qu'il faut surveiller plus que d'autres.
Alors l'âge classique, on va dire, de l'apparition de l'anorexie, c'est plutôt entre 13 et 18 ans,
d'accord,
au début de la puberté, avec vraiment un pic entre 13 et 14 ans et un autre entre 17 et 18 ans. Après, il existe des formes plus tardives, mais aussi des formes plus précoce qu'on dit prépubère.
Avant ouais, la puberté, c'est important. On l'a vu avec les témoignages de Léa. C'est tout à coup, si on n'est pas accompagné peut-être assez, le changement du corps, ça peut être compliqué.
On parle d'anorexie, boulimie, c'est pareil, même âge, même type de choses à surveiller globalement.
Alors, il y a des choses qui sont effectivement similaires et d'ailleurs, les deux peuvent être associées. Ouais. Hein, on peut avoir une anorexie avec boulimie. Ouais. Voilà, l'âge est un peu différent et le profil est quand même un peu différent entre les deux.
On fera une émission sur la boulimie parce que c'est aussi spécifique. Mmh.
Alors Étienne vous demande, quand faut-il s'inquiéter de la maigreur de son enfant ?
Alors j'ai envie de dire, les enfants, les adolescents, on s'attend à ce qu'ils prennent du poids chaque trimestre, chaque année. Donc en fait, ce qui va nous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, c'est vraiment les courbes de croissance. Mmh. Donc, c'est un outil qu'on utilise au quotidien, parce qu'en fait, on n'a pas tous le même gabarit et les mêmes besoins. Mmh. En fait, quand on va observer sur une courbe de croissance que le poids stagne ou diminue et que l'indice de masse corporelle stagne ou diminue également, là, on peut s'inquiéter.
Alors, ce qui est possible avec un enfant qu'on va emmener chez le pédiatre très régulièrement, mais finalement, quand l'enfant devient ado, vers 16-17 ans, on ne le fait plus trop, ça.
C'est vrai, c'est vrai. Alors après, on parlera peut-être des signaux d'alerte, des choses qu'on peut repérer pour savoir quand est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'éventuelle apparition d'anorexie. Mmh. Mais bon, voilà, une perte de poids, évidemment, doit faire poser une...
On ne parle pas de perte de 100 grammes, c'est ça que vous voulez dire. A priori, ça devrait sauter aux yeux des parents quand ça devient inquiétant.
Oui, bien sûr. Alors après, on peut aussi s'alerter avant la perte de poids sur des modifications de l'alimentation, ouais, des modifications de la façon de manger, de ce
et
qui est mangé.
Et aussi. Dès que ça devient un sujet, peut-être qu'il faut quand même ouvrir l'œil, dès qu'il y a un régime un peu récurrent.
C'est ça. Si on entend un enfant, un adolescent qui va changer son discours autour de l'alimentation, s'intéresser beaucoup aux calories, au Nutri-Score... Voilà, là, il faut se poser effectivement des questions.
Quand vous voyez des parents, j'imagine que vous en voyez beaucoup déboussolés, etc. Quel est le premier conseil que vous leur donnez, peut-être de ne pas engueuler leur enfant ?
Alors, effectivement, c'est un conseil...
À mon avis, vous ne le dites pas comme ça.
On ne le dit peut-être pas comme ça, mais c'est effectivement un conseil qu'on donne. Alors, quand on a repéré effectivement chez son enfant un trouble des conduites alimentaires, ce qu'on dit aux parents, c'est d'une part de ne pas parler que d'alimentation, que de silhouette, que de poids, de pouvoir parler d'autres choses, parce que quand on est parent, voilà, on est parent, on n'est pas soignant, donc de ne pas prendre le rôle non plus des soignants, et effectivement d'essayer de ne pas être dans le conflit, mais plutôt dans la valorisation des efforts. Après, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'écueil de trop valoriser, parce que avec cette maladie, on est généralement ambivalent, c'est-à-dire qu'on a un peu envie d'aller mieux, de faire des efforts, d'avancer, mais en même temps, on a la voie de la maladie.
On est rattrapé par la maladie.
Voilà. Donc, il faut faire attention à ne pas trop valoriser non plus, parce que ça peut mettre des bâtons dans les roues.
Bon, vous ne faites pas un métier simple, on l'aura compris. une question envoyée en vidéo pour vous de Nélia.
Bonjour, je m'appelle Nélia et j'ai souffert d'anorexie, j'ai encore des gros soucis actuellement. J'ai trois jolies petites filles et je m'inquiète beaucoup pour elles. J'aimerais savoir s'il y a un risque qu'elles en souffrent aussi également. Merci.
Est-ce que ça peut être héréditaire ?
Alors, c'est une bonne question. Comme tous les troubles psychiques, les troubles des conduites alimentaires ne sont pas héréditaires au sens propre. Par contre, on sait qu'avoir dans sa famille une personne, d'autant plus si elle est proche, les parents par exemple, qui ont souffert d'un trouble des conduites alimentaires, on a plus de risques de développer soi-même un trouble des conduites alimentaires. Probablement pour deux raisons. Alors, on sait qu'il existe une vulnérabilité génétique. Ça ne veut pas dire que c'est une maladie génétique, non. Mais on est tous différents sur la vulnérabilité qu'on a à avoir telle ou telle maladie. Et on sait aussi que grandir, se développer dans un environnement où les régimes, ça va être important,
ou
la minceur,
sujet,
on va être aussi plus à risque d'avoir, de souffrir d'anorexie.
Est-ce que vous, concrètement, vous diriez qu'il y a plus d'ados qui souffrent d'anorexie, qui souffrent de boulimie depuis cet épisode Covid ?
Alors, on a vu effectivement une augmentation du nombre de consultations pour troubles alimentaires, je dirais, au sens large, depuis le début de la pandémie Covid, enfin surtout depuis après le premier confinement, au moment du déconfinement, comme un petit peu tous les troubles psychiatriques. C'est pas forcément l'anorexie et la boulimie, mais c'est tous les troubles des conduites alimentaires, des enfants qui aussi refusent de manger pour d'autres raisons.
D'accord, bref, vous avez beaucoup de boulot en ce moment particulièrement, donc merci d'être là. Joanne vous demande, comment détecter les premiers signes de l'anorexie ?
Alors, les premiers signes de l'anorexie, il y a plusieurs catégories. Il va y avoir les signes physiques, dont on a un peu parlé tout à l'heure, la perte de poids, la stagnation de poids, l'arrêt de la puberté aussi, ou l'absence de début de puberté. Il y a un autre signe physique qui est très très fréquent et qui est souvent un des premiers signes, c'est les douleurs abdominales non expliquées par autre chose, ou la présence de nausées persistantes, d'autant plus chez le jeune enfant qui va peu exprimer par exemple ses difficultés ou ses inquiétudes autour de sa silhouette, mais qui va plutôt exprimer des douleurs abdominales avant, pendant ou après le repas. Ça, c'est les signes physiques. Et ensuite, tout ce qu'il y a autour de l'alimentation, donc un changement de discours autour de l'alimentation avec une préoccupation pour les Nutri-Score, pour les calories, mais aussi l'apparition de rituels à table. Donc un enfant, un adolescent qui va être très, très ritualisé autour du repas, qui va vouloir manger à la même place, à la même heure, utiliser les mêmes couverts, être un peu tyrannique dans sa façon de manger, qui va aussi prendre des petites bouchées, être plus lent pour manger, voire dissimuler de la nourriture. Puis il y a tous les comportements qui vont viser à empêcher la prise de poids, et notamment l'hyperactivité physique, qui est parfois difficile à repérer parce que ça peut être juste je reste debout pour faire mes devoirs ou je monte, descends les escaliers. Je maintiens une activité physique comme ça, un peu sans but.
Quand on en est là, j'imagine qu'on est déjà bien ancré dans la maladie, non ? Faire les devoirs debout pour perdre un peu de
calories. Oui, mais ça peut être au début un peu subtil, bien sûr. Après, ça évolue crescendo, mais ça peut être des premiers signes.
Jeanne, vous dites j'ai 17 ans aujourd'hui, j'ai souffert d'anorexie pendant 3 ans. Peut-on en guérir vraiment ou reste-t-on fragile toute sa vie ?
Alors la réponse est oui, on peut en guérir et c'est d'ailleurs la majorité des cas.
D'accord.
Parce qu'on sait aujourd'hui, alors les dernières études disent 50% de guérison totale. Alors après, on sait que c'est une maladie qui dure assez longtemps. Et on sait effectivement qu'une certaine partie de la population va garder des symptômes résiduels et d'autres vont souffrir de troubles chroniques.
C'est-à-dire un comportement toujours sur le contrôle avec la nourriture ?
Voilà, des particularités sur le plan alimentaire, mais avec peu de conséquences au quotidien. D'accord. Et c'est moins d'impact.
Une fragilité. On peut garder une fragilité, mais comme on a tous des fragilités sur autre chose, on peut très bien en vivre.
Exactement.
Super. Pourquoi ? Enfin, super.
Génial, ouais.
Merci, docteur. C'est top. Pourquoi l'anorexie touche-t-elle plus les filles que les garçons ? Vous demande Thibault.
Alors,
est-ce que déjà c'est vrai ?
Alors oui, c'est vrai dans ce qu'on constate en consultation, en hospitalisation. Il y a probablement plusieurs raisons. Peut-être que c'est une maladie qui touche plus les filles, d'un point de vue biologique, génétique, etc. Après, on sait aussi qu'on repère moins bien l'anorexie chez les garçons, clairement. C'est aussi plus stigmatisant comme maladie chez les garçons, de parler d'anorexie, vu que c'est une maladie, entre guillemets, de filles. Et puis, on sait aussi que les signes cliniques ne sont pas tout à fait les mêmes et que les garçons vont peut-être moins rechercher la perte pondérale, mais plutôt d'avoir un corps sec, musclé, être hyper investi dans le sport, ce qui est aussi mieux toléré par la société et dans l'environnement en général.
Ah d'accord, donc l'équivalent pourrait être un ado qui se met à fond dans le sport et qui veut se bodybuilder.
Exactement, mais qui va, par exemple, pour un enfant, en fait, stagner en poids et donc ralentir sa croissance, par exemple.
Alors Valérie vous demande, j'ai l'impression que ma fille mange de moins en moins, elle maigrit à vue d'œil, quels sont les mots à ne pas dire ? Elle a besoin de conseils.
Alors, je pense qu'il faut faire part de son inquiétude, pas parler que d'alimentation et pas y aller frontalement, mais en tout cas, faire part de ses inquiétudes et puis un petit peu questionner sur est-ce qu'il y a des préoccupations autour du poids, autour de la silhouette, et puis rapidement aller consulter un médecin généraliste ou un pédiatre pour en parler.
Parce qu'au début, il dissimule généralement.
Alors, effectivement, parce qu'il y a un caractère honteux hein, avec l'anorexie, donc c'est difficile d'en parler, effectivement, spontanément. Et puis, plus les enfants sont jeunes, plus c'est difficile pour eux aussi d'élaborer autour de ça. Hein, et c'est parfois plus des comportements que des pensées, donc c'est parfois difficile aussi d'exprimer des choses.
Ouais. Il y a un profil chez ces ados, vous qui en voyez beaucoup ?
Alors, oui, il y a des profils. Il y a des profils, effectivement, de tempérament. On parlait de confiance en soi avec l'invité tout à l'heure. C'est effectivement, ça va souvent de pair, hein, une faible estime de soi. Enfin, ça va souvent de pair avec l'anorexie. Probablement que le lien est bidirectionnel. Hein, l'anorexie va faire baisser l'estime de soi, mais la faible estime de soi augmente le risque d'anorexie. Ouais. Et puis, on sait que les tempéraments qui sont plus rigides, plus perfectionnistes, plus centrés sur les détails, sont plus à risque de souffrir d'anorexie.
Et Léa, ce qu'elle racontait bien, c'est que la confiance en elle, elle l'avait jusqu'à cette séparation, jusqu'aux 19 ans. Donc, en fait, c'est pas gagné, quoi, même si à 16-17 ans, on a un ado qui...
Alors oui, là, c'est un
événement... Voilà pour la question optimiste.
c'est un événement stressant. Alors après, ce n'est pas un seul événement qui explique l'apparition d'un trouble. Hein. C'est vraiment l'accumulation de plusieurs facteurs.
À propos de la confiance en soi, Marion vous demande si ce sont plus souvent des jeunes filles ou des jeunes garçons qui manquent de confiance en eux. Donc là, on sort un tout petit peu du sujet anorexie. Ouais. Sur la confiance en soi, vous diriez qu'il y a un genre ?
Alors oui, il manque souvent de confiance en eux. Et c'est vrai que le fait de contrôler son alimentation, ça aussi redonne de la confiance sur quelque chose.
C'est ce
quelque chose qu'on maîtrise
et
qu'on contrôle, même si finalement, assez rapidement, on en perd le contrôle. On a l'impression
on
de contrôler.
Peu, mais on se sent un peu surpuissante quand même.
Au tout début, oui. Il y a un peu cette phase d'euphorie même au début. Hein, je veux dire, c'est même biologique, hein, la dénutrition. Au tout début, il y a un peu ce caractère euphorisant. Puis il y a souvent les commentaires positifs aussi de son environnement.
C'est vrai. Ah, t'es belle, ça te va bien.
Ça te va bien, t'as perdu du poids, etc. Donc ça renforce un peu le symptôme initialement. Mais en fait, derrière ce contrôle, en fait, c'est une perte de contrôle. Hein, et c'est la maladie qui contrôle vraiment les comportements alimentaires.
Patricia vous demande si l'anorexie a des conséquences sur la croissance.
Alors oui, ça a des conséquences sur la croissance. Et nous, on le constate enfin, voilà, chez les enfants et les jeunes adolescents. Donc oui, la dénutrition, ça fait ralentir la croissance en taille. Et ça peut même l'arrêter complètement.
Comment agir si le dialogue est source de conflit ? Vous demande Paul, on l'a évoqué tout à l'heure.
Alors, bon, c'est toujours comme avec tous les adolescents pour parler de tous les sujets, hein, je pense. Il ne faut pas y aller totalement frontalement, mais il faut quand même faire part de ses inquiétudes et inviter à la discussion. Peut-être trouver un moment où on a l'impression que la discussion sera possible. Et voilà, peut-être pas au moment du repas, par exemple, où on constate des choses, mais plutôt après, sur un temps calme, sur un moment où, où tout le monde est un peu apaisé, un moment agréable. Et d'inviter à parler du sujet et puis réessayer, réessayer si on n'a pas réussi la
Si ça nous angoisse trop, peut-être déléguer, c'est là où vous disiez tout à l'heure.
Et après, peut-être déléguer, effectivement.
Ouais. C'est difficile pour les parents, j'imagine, d'avoir la distance nécessaire, comme vous dites, d'attendre bien le bon moment, alors qu'ils doivent ressentir une part de culpabilité. Hein.
Bien sûr. Et ça, c'est très fréquent. On sait que les parents ne sont pas responsables de l'apparition de cette maladie, mais peuvent être par contre des vrais membres de l'équipe de soins qui va faire que la maladie s'améliore.
Il peut y avoir un lien anorexie-inceste ? Est-ce qu'on peut le...
Alors, tout facteur...
Ou traumatisme en général.
Alors, tout facteur, tout événement de vie stressant, que ce soit inceste ou autre traumatisme, peut être un facteur, effectivement, qui peut augmenter la vulnérabilité à avoir de l'anorexie ou précipiter l'apparition des symptômes. Après, ce n'est pas un lien qui est linéaire.
Alors Chloé vous demande, je me demande si ma fille est anorexique, est-ce que je dois prendre rendez-vous directement dans un service spécialisé ou d'abord avec son pédiatre ?
Alors, il faut d'abord prendre rendez-vous avec son pédiatre, avec son médecin généraliste pour faire le point sur les éléments de base. Et puis après, il y a le caractère assez pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a un délai d'attente de toute façon très long dans les centres spécialisés. Donc,
c'est ça.
Pour commencer les soins et initier des choses, il vaut mieux aller voir son médecin généraliste et son pédiatre.
Le délai d'attente, par exemple, chez vous, c'est ?
Mais c'est le meilleur d'Europe de l'Ouest.
Je sais, c'est pour ça que je demande. 6 ans. Ah,
et... Non, pour les consultations, ça peut être assez rapide. Mais c'est vrai qu'on aime bien qu'il y ait d'abord eu un avis avec un pédiatre ou un médecin généraliste, parce qu'il y a des choses à faire dès le départ, même si on n'est pas un centre spécialisé.
Y a-t-il plusieurs sortes d'anorexie ? Vous demande Juliette.
Alors oui, il y a plusieurs sortes d'anorexie. Alors on parle de la forme qui est restrictive pure, où on va se restreindre sur le plan alimentaire. Et puis il y a les formes qui sont associées à la boulimie, on va avoir des crises de boulimie en plus des conduites de restriction. Puis il y a les formes avec crise de boulimie et ce qu'on appelle des conduites purgatives ou de purge, donc des vomissements provoqués par exemple. Et après, il y a les formes en fonction de l'âge, hein, tardive, l'âge plus classique entre guillemets, et puis prépubère comme on en parlait tout à l'heure.
Marine vous demande, j'ai des doutes pour ma fille, est-ce qu'il faut que je surveille les sites internet qu'elle visite et son journal intime ?
Alors, il vaut mieux éviter de faire ça pour ne pas briser le lien de confiance. Et pour le coup, ça ne va pas...
Ou alors, il ne faut pas se faire choper, quoi.
c'est ça. Mais on finit toujours par le savoir.
Un petit conseil.
Oui. Ils sont malins, il faut faire attention.
Mieux vaut faire part de ses inquiétudes plutôt que de fouiller les sites internet.
Mais on comprend qu'elle ait envie de...
Mais on comprend,
voilà,
effectivement.
Voilà, que ça l'angoisse et que...
Marie, vous n'allez pas voir dans les journaux intimes, oui. C'est bien.
Oh, elle a souri.
Ah non. Ouais. Ah non, c'est vraiment le truc qui me...
Ah oui,
ah ouais,
alors que pas. Moi, je ne sais pas si je pourrais tenir, les gars. Je dois me confesser. Je ne sais pas si je vais pouvoir me retenir.
Mais si, oui.
Vous croyez?
Oui.
Je donnerai de la force à Kat.
Je le fais déjà dans le portable de mon mari, donc je ne sais pas.
C'est vrai? Non.
Non, mais il le sait.
Ah bon?
Je le fais devant lui.
Ah bon, ça...
Je lui dis, ouais, tiens, je fouille dans ton portable, je préfère checker, checker.
C'est bien. Docteur, un point de vue non, c'est pas votre spécialité.
C'est vous.
Tiens, alors une question qui prend le problème à l'inverse. Les ados qui souffrent d'anorexie se rendent-ils compte qu'ils font aussi souffrir leur famille?
Alors, au début, souvent, non. Après, effectivement, quand la maladie évolue, oui, ils s'en rendent compte. Et puis, quoi qu'il arrive, les prises en charge familiales, elles sont toujours nécessaires dans la prise en charge globale de l'anorexie. On fait intervenir les familles parce qu'on vous dit c'est des alliés aux soins, mais aussi parce qu'on sait que l'anorexie fait un peu tache d'huile et va effectivement avoir des conséquences sur la fratrie, les parents, oui. Etc.
Laurence vous demande combien de temps dure l'anorexie en moyenne?
Alors, c'est une bonne question. C'est une évolution qui est vraiment par phase. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir au départ, donc qui va se faire par phase, progressive et successive. Ça dure...
Pour Léa, ça a été assez vite quand même.
Pour Léa, ça a été assez vite, effectivement. L'évolution plus classique, c'est plutôt par phase, et la durée moyenne, elle est plutôt, dans les dernières études, de 4 à 5 ans. Donc, c'est quand même assez long. Ça ne veut pas dire qu'il y a des conséquences importantes quand on est arrivé à 4 ans d'évolution de la maladie, mais ça dure effectivement en moyenne 4 à 5 ans.
Voilà, merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.